de David. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête sur un autre des vaillants hommes de David, j'ai nommé Benaja. Et avant de prendre 2 Samuel 23, et on lira 3 versets, les versets 20 et 23, j'aimerais qu'on prie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu es le même d'éternité en éternité, nous savons que tu ne changes pas, nous savons que tu es fidèle, et nous savons que ce Dieu de l'Ancien Testament, c'est aussi le Dieu de 2016. Et Seigneur, permets-nous d'avoir les cœurs ouverts à ce que tu as à nous dire ce matin. Permets-nous aussi de saisir toujours plus qui tu es et comment tu souhaites, quelle relation tu souhaites avoir avec nous. Merci de bénir ta parole. Amen. Alors, 2 Samuel 23, versets 20 à 23. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabtsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Quel texte. Alors le titre modeste que j'ai donné ce matin à notre message, c'est devenir un chasseur de lions. Et pour cela, je vous propose d'aborder dans un premier temps qui était Benaja et quels ont été ses combats, pour voir ensuite comment cela peut nous aider, nous, personnellement, dans les combats que nous avons à mener en tant que chrétiens. Alors, Benaja et ses combats. Qui est ce Benaja? Le texte nous dit que Benaja est le fils de Jéhojada. Jéhojada a été souverain sacrificateur. Il est aussi le petit-fils d'un illustre guerrier. Second parle d'un homme rempli de valeur. Et là, on se rend compte, encore une fois, que le courage et la consécration à Dieu et à son roi de Benaja étaient déjà inscrits dans ses gènes. Dieu sait faire les choses autrement, mais il est à noter ici encore que l'éducation spirituelle et les exemples de courage des parents marquent les enfants. J'ose faire un petit clin d'œil aux mamans aujourd'hui. Les exemples de courage des mamans marquent les enfants. Et par extension, les exemples de courage spirituel des uns dans l'assemblée marquent et encouragent les autres frères et sœurs. C'est la famille de Dieu. Alors, on va s'arrêter maintenant à la signification des noms. Alors, Jéhojada. Jéhojada veut dire l'Éternel connaît. L'Éternel connaît les situations de nos vies. Un homme de Kabtsel. Kabtsel veut dire « Dieu recueillera ». Alors, je n'ai pas retrouvé de carte parce que je pense que c'est une toute petite ville. Mais cette toute petite ville, elle est située dans le sud de Juda, à la frontière d'Édom. C'est-à-dire qu'elle est à l'opposé de Jérusalem. Et là encore, on voit que Dieu accueille tout le monde, que ce soit ceux qui vivaient à Jérusalem, mais que ce soit aussi ceux qui étaient au bout du monde. Dieu accueille tout le monde, même ceux et celles qui sont les plus éloignés ou bien qui semblent délaissés. Rien n'est trop éloigné, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de personne délaissée pour Dieu. Benaja veut dire l'Éternel bâtit. L'Éternel bâtit ma personnalité dans ce que je suis appelé à vivre, et ça a été le cas de Benaja. La signification seule de ces mots est à lui seul un message de salut et d'encouragement pour chacun d'entre nous. Dieu te connaît et connaît ce que tu vis. Et en dépit de cela, Dieu veut t'accueillir pour bâtir ta vie à sa gloire. Je vous propose maintenant qu'on s'arrête sur les responsabilités de Benaja. Benaja, c'était pas n'importe qui quand même. Benaja appartient aux vaillants hommes de David. Il y en a 37. Benaja a été admis au conseil secret du roi David. Et il est devenu même chef de sa garde personnelle. David l'a admis à son conseil secret, et on peut penser que cela venait d'une juste reconnaissance de David envers les qualités de Benaja. Cependant, je pense que cela a été aussi pour Benaja un privilège d'être au contact du roi et l'a aidé dans son service. J'imagine que cette intimité avec le roi lui a permis de mieux le connaître et donc de mieux l'apprécier pour qui il était. Et donc, quelque part, d'être plus motivé à son service. D'une certaine manière, les chrétiens que nous sommes, nous avons gagné notre place au conseil secret de Dieu, grâce au mérite et à la qualité de Jésus-Christ. Ainsi, lorsque je participe au conseil secret de Dieu, dans ma chambre, dans la prière et dans la lecture de sa parole, cela me permet de mieux connaître Dieu, et donc de mieux apprécier le roi qu'il est, et donc d'être plus motivé à son service. Je dois confesser que mon siège au conseil secret de Dieu reste souvent vide. Mais ce que je remarque, c'est que Dieu, dans sa grâce et sa bonté, bénit parfois le peu de temps que nous mettons à son écoute. Alors j'aimerais prendre, pour marquer un tout petit peu nos esprits, un contre-exemple. Celui de nos très chers députés de l'Assemblée nationale. Alors il paraît qu'il y en a qui ne siègent pas souvent à l'Assemblée nationale. Et si je prends leur image, ce texte nous invite à ne pas nous comporter comme eux, mais à essayer d'être plus réguliers à siéger, et ainsi nous pourrons toucher les primes spirituelles de notre mandat d'enfant de Dieu. Alors Benaja était un leader dans l'armée. Il a d'ailleurs fini commandant en chef de l'armée de David. Mais le texte nous dit qu'il n'était pas dans les trois plus considérés, qui étaient Josheb, Bachébeth, Éléazar et Shamma. Est-ce que cela vous surprend? L'Église, ce n'est pas seulement ceux et celles qui portent des responsabilités dans l'Église, mais ce sont tous les hommes et les femmes et les enfants qui la composent, chacun dans ce qu'il est appelé à vivre. Les leaders ne sont pas les seuls appelés à faire des exploits. Chacun, quelle que soit sa fonction dans l'Église, peut le faire, car Dieu est tout et Dieu est en tous. Dieu n'attend pas que nous ayons 10 ou 20 ans de vie chrétienne ou peut-être telle ou telle étiquette sur le dos pour agir au travers de nous. Ce qui est merveilleux, c'est que cela est à la portée de chacun d'entre nous, puisque nous avons tous, en Jésus-Christ, un accès illimité au roi des rois. Alors je vous propose maintenant qu'on s'arrête sur les combats de Benaja. Benaja a combattu 3 ennemis, où les choses penchaient franchement en sa défaveur. Il est parlé de 2 lions de Moab. Une autre traduction parle de deux hommes moabites, forts comme des lions. Le troisième épisode est parlé d'un Égyptien géant. Un Égyptien géant mieux armé que lui. Le deuxième, parle d'un lion dans une citerne un jour de neige. Alors je vous propose qu'on s'arrête un peu plus en détail sur ce dernier épisode, mais avant j'aimerais un petit peu nous détendre un peu l'atmosphère et vous raconter une blague belge. Alors, moi je suis presque belge, alors j'ai le droit de raconter des blagues belges. Mais si vous vous la racontez, ça sera de la médisance, d'accord ? Alors, deux Belges font un safari en Afrique pour chasser les éléphants. Ils sont en train de traquer les éléphants quand soudain, un lion sort de la brousse et se jette sur un des deux Belges. L'autre s'enfuit. Après une dure bataille, le premier Belge réussit à se dégager de la bête et à la faire fuir. Alors il rejoint son ami tout ensanglanté, les vêtements en lambeaux, et il lui dit « Espèce d'idiot, pourquoi tu n'as pas utilisé le fusil? Ce lion a failli me tuer !» Et l'autre lui répond « Mais tu m'as dit que c'était un fusil pour les éléphants !» Pour en revenir à Benaja, il n'avait pas de dilemme de ce genre puisqu'il ne disposait d'aucun fusil. Peut-être avait-il son bâton, le texte ne nous en parle pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était très désavantagé dans ce combat. Un lion mâle adulte pèse en moyenne 190 kilos. En moyenne, il y en a des qui dépassent les 300. Court à 60 km/h et saute 3,70 m de haut et 11 mètres de long. Donc là, Benaja, il est coincé dans la citerne avec la bestiole. Les mâchoires d'un lion sont assez puissantes pour broyer des os, et ses canines servent à découper ses proies. Je ne sais pas ce que font vos canines, mais les miennes, elles ne font pas ça. Alors, le lieu, une citerne, ça non plus, ça n'avantage pas du tout Benaja. La vue d'un lion est 5 fois meilleure que celle d'un être humain qui a 10 sur 10 aux deux yeux. Ce qui donne également un clair avantage au lion au fin fond d'une citerne dans la pénombre. Alors il neige. Même la météo n'est pas du côté de Benaja. Les réflexes et la dextérité d'un félin sont aussi un grand avantage un jour où il y a de la neige et où le sol est glissant. Mais Benaja a fait ce que les chasseurs de lions font. Il a défié les circonstances. Il ne s'est pas arrêté à ses désavantages. Il ne s'est pas trouvé d'excuses. Il n'a pas essayé d'éviter la situation alors que les circonstances étaient contre lui. Les chasseurs de lions savent que Dieu est plus grand et plus puissant que tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans ce monde. Les chasseurs de lions savent que Dieu est plus grand et plus puissant que tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans ce monde. Cette citation est tirée d'un livre qui m'a beaucoup encouragé et qui s'appelle, excusez mon accent anglais, australien, In a pit with a lion on a snowy day. Ce qui veut dire dans une citerne avec un lion, un jour de neige. Alors ce n'est pas vraiment, si vous comptez le lire, ce n'est pas vraiment le commentaire de ce texte, mais c'est plutôt des réflexions et des encouragements à faire confiance en ce Dieu extraordinaire qui nous invite en tant que chrétiens à devenir des chasseurs de lions. Alors Benaja, on a vu les combats de Benaja. Mais je pense que chacun d'entre nous, nous avons aussi des combats. Et on a vu ici 3 victoires de Benaja, flamboyantes, époustouflantes. Si la vie chrétienne et si la vie des soldats de David était tout le temps comme ça, il surfait sur la vague. Mais nous connaissons aussi les fuites de David. Nous connaissons les défaites de David. Et je pense que pour ces hommes aussi, elles avaient un goût de défaite amère. Et cela me rassure. Ma vie spirituelle est un combat fait de victoires et de défaites. Et je dois l'admettre, elle est aussi faite de refus de combat. Une citation du livre, « Faire le bien n'est pas l'absence de mauvaises choses. Tu peux ne rien faire de mauvais et continuer à ne rien faire de bien. » Notre appel est plus grand que simplement s'enfuir loin de ce qui est mauvais. Nous sommes appelés à chasser les lions, c'est-à-dire à regarder nos problèmes et nos obstacles comme des opportunités de voir Dieu à l'œuvre. Avec le recul, je me rends compte que très souvent les défaites sont des batailles que j'ai voulu mener en laissant Dieu sur la touche. Parfois aussi, j'ai l'impression que je n'ose pas mener les combats qui semblent déséquilibrés. Face à un lion, dans une citerne, moi, j'y vais pas. Avec un bâton, face à une lance, j'y vais pas. Je m'aperçois aussi que parfois, je combats pour Dieu en prenant des résolutions, mais est-ce que je combats avec Dieu ? Et dans ce cas-là, je m'interroge, quelle est la place que je laisse à Dieu dans ma vie? Comme pour Benaja, David et tous ces hommes, et tous les soldats de l'Ancien Testament, les victoires se remportaient quand Dieu était avec le peuple. Deutéronome 9, verset 1 et verset 3. Écoute Israël. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Verset 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Un chrétien victorieux, c'est un chrétien qui s'appuie sur la victoire de Jésus-Christ à la croix et qui, grâce à cela, peut remporter des victoires dans sa vie de tous les jours. Une autre citation du livre, « Plus nous grandissons avec Dieu, plus Dieu devient grand. Et plus Dieu est grand, plus nos lions deviennent petits. Plus Dieu est grand, plus nos lions deviennent petits. » En fait, je m'aperçois que mon problème, c'est de changer l'image que j'ai de Dieu. En tant que chrétiens, nous avons trois ennemis principaux dans notre vie spirituelle. Le diable, le monde et ses mauvaises influences, et notre chair. Pierre nous a parlé il y a quelque temps de résister à la tentation de notre ennemi le diable. Et j'aimerais qu'on s'arrête ce matin sur une autre tentation, celle qui vient de notre propre chair. Alors la chair, c'est un lion familier. Parfois peut-être apprivoisé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la chair? Dans certains textes, on voit que la chair, dans l'Ancien Testament, est associée à Moab. C'est bizarre. Vous savez qui était Moab? Moab était le fils de Lot. Le fils de Lot avec sa fille aînée, qu'ils ont eu un jour de beuverie. La chair. La chair, c'est nos péchés mignons ou moins mignons, comme dans le cas de Moab, ou en tout cas de sa fille, puisqu'elle a saoulé son père, de sexualité déréglée, de fête à outrance, et j'en passe, et des meilleurs. C'est aussi ma manière humaine de raisonner. C'est tout ce que nous faisions, pratiquions, pensions, projetions avant de connaître Dieu. C'est même les choses, et là ça devient insidieux, c'est même les choses qu'on veut faire pour Dieu, mais sans Dieu. Et ça, c'était l'exemple des Galates avec la circoncision. Alors la Bible nous parle de ce combat, c'est celui entre le vieil homme et l'homme nouveau. Et il y a plusieurs textes qui en parlent et j'aimerais simplement souligner, et je vous inviterai à relire ces textes, mais les points clés. Romains 6, versets 1 à 14, on voit que nous sommes invités, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Deux textes se retrouvent, Colossiens 3, versets 9 et 10 et Éphésiens 4, versets 20 à 24, avec un point clé, se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Si je résume, l'homme nouveau que je suis désormais en Jésus-Christ a pour objectif de se débarrasser des anciennes habitudes du vieil homme que j'étais. Et ça ne se passe pas tout de suite à la conversion. En langage doctrinal, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai pour objectif de marcher et de progresser sur le chemin de la sanctification progressive. C'est le déjà et le pas encore. Je suis déjà déclaré saint et parfait en Jésus-Christ, et je le deviens un peu plus, combat après combat. C'est devenir un papillon. Vous connaissez ce phénomène naturel, la larve meurt laide et renaît belle en papillon. Dans chaque domaine de ma vie, grâce à la foi en la puissance de résurrection de Jésus-Christ, je peux devenir papillon. Devenir papillon, c'est devenir toujours plus conforme à l'image parfaite de Jésus-Christ. Alors ce matin, je nous pose la question, est-ce que ce matin, sur un domaine précis, tu en as assez de larvée et tu voudrais devenir papillon? Alors pour ça, je vous propose qu'on s'inspire des 5 P de Benaja. Les 5 P de Benaja pour devenir papillon. Comme Benaja, c'est se positionner. C'est accepter le combat qui est devant moi. Ne pas reculer ou tourner la tête face au lion de ma vie. Accepter le combat quand il se présente, c'est aussi simplement être prêt à ce que Dieu se serve de moi malgré mes faiblesses. Et Paul ira même jusqu'à dire en 2 Corinthiens 12, verset 10, « C'est quand je suis faible que je suis fort. » Comme Benaja, c'est être proactif. C'est être offensif quand le combat se présente. Le texte parle de, c'est lui qui a été à l'initiative les deux fois. Il a frappé les deux fois et il est descendu dans la citerne. Être proactif, c'est confesser à Dieu mon problème. Lui demander pardon et vouloir m'en détourner et attaquer le problème à la racine, c'est-à-dire celle de mon cœur. je vais vous poser une question. Pourquoi descendre dans une citerne où un lion est tombé? Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus manger. Comme Benaja l'a fait, être proactif, c'est aller jusqu'au bout pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Comme Benaja, c'est aussi prendre les armes à ma disposition, même si elles semblent inadaptées. C'est prendre toutes les armes de Dieu, car j'ai l'impression que, comme un petit peu nos deux Belges, nos deux amis belges de tout à l'heure, que parfois je m'auto-censure d'utiliser les armes que Dieu me donne. Je m'empêche de proclamer sa victoire à la croix sur des situations de ma vie. J'oublie de prier. Je ne me sers pas de mes frères et de mes sœurs. Je ne me sers pas de cette redevabilité possible avec un frère ou une sœur de confiance. Je ne me sers pas de la redevabilité avec mon époux ou mon épouse quand je suis en couple. Et je ne me sers que très peu de la parole. Prier, c'est lui demander son aide pour y arriver. C'est s'appuyer sur Dieu. C'est faire notre part, mais lui aussi, lui laisser aussi la place pour qu'il agisse. Un proverbe yiddish, pour tomber, on se débrouille seul, mais pour se relever, la main d'un ami est nécessaire. Et la main de Dieu est plus que nécessaire, elle est indispensable. Comme Benaja, c'est croire que Dieu puisse réaliser avec moi des choses impossibles. Quelque chose de remarquable, c'est que notre petite foi, multipliée par la puissance infinie de Dieu, permet de tuer les lions les plus féroces de nos vies. C'est aussi persévérer. C'est parfois retomber, mais toujours se relever en s'appuyant sur le pardon de Dieu et les forces de Jésus-Christ. Une belle citation. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Pour résumer, j'aimerais qu'on se rappelle ce matin que nous avons le même Dieu que Benaja. Que Dieu te connaît et connaît ce que tu vis. En dépit de cela, Dieu veut te recueillir pour bâtir ta vie à sa gloire. Pour devenir un chasseur de lions, deviens un papillon. Pour finir, j'aimerais qu'on s'inspire de la manière dont David, et j'imagine les hommes sous son commandement, ont abordé les situations difficiles de leur vie en reprenant quelques versets du psaume 27. Et on va le lire dans la version du Semeur. Oui, c'est David qui parle. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis. Mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on m'en déclare la guerre, je suis plein d'assurance. Et le verset 13, que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. Amen.